Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue et merci d'être fidèle à Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Un salut particulier à ceux qui découvrent cette émission. Cette fois-ci, la saison musicale régulière tire vraiment à sa fin et avec l'été, c'est la saison des festivals qui commence. Elle fera d'ailleurs l'objet du prochain numéro de Mélomanie. En attendant, nous avons encore l'occasion de parler des derniers feux de la saison qui se termine et nous projeter déjà dans celle qui s'annonce. Pour m'y aider, quelques mélomaniaques ont répondu présent. Tout d'abord, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi. Elle est accompagnée de Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et le Côté Toulouse et les Voix du Midi, ainsi que de Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie et membre fondateur des Clés de Saint-Pierre. Avec eux, j'ai le plaisir de recevoir une invitée d'honneur, Catherine Dargoubet, cofondatrice et co-directrice artistique de Piano Jacobin, également fondatrice et directrice des Grands Interprètes. Et la saison 18-19 des Grands Interprètes s'annonce comme un cru exceptionnel, avec une programmation qui ne l'est pas moins. Nous allons en parler avec vous, Catherine Dargoubet, en seconde partie d'émission. Mais pour l'instant, place au premier chapitre de ce numéro et au retour sur les événements musicaux de la semaine passée.
Mélomanie. Retour arrière.
Pour commencer, nous allons revenir sur un événement dont les représentations sont toujours en cours et dont la dernière a lieu ce dimanche 1er juillet. Il s'agit bien sûr de La Clémence de Titus, l'ultime opéra de Mozart. Nous vous avions largement présenté cette production à Mélomanie il y a 2 semaines. Par l'entremise de Robert Pénavert, notre monsieur opéra, depuis plusieurs d'entre nous ont pu assister à des représentations, ce qui nous permet aujourd'hui d'en parler en connaissance de cause. Anne-Marie et Robert l'ont vu dans la salle, Serge Krichewski était lui dans la fosse, avec ses camarades de l'orchestre du Capitole sous la direction d'Attilio Cremonesi. Alors, comme notre ami Robert a été très incisif ces derniers temps, et même parfois, il faut bien le dire, assez sévère pour les productions auxquelles il a assisté, je vais commencer par lui. Est-ce que cette production-ci a droit à la clémence de Robert Pénavert ?
Ah, celle-là, je vais y arriver. Bon, mais
il bravo, fallait la faire.
Mais merci de l'avoir faite, Eric. Bon, c'est le dernier opéra de la saison. Et c'est vrai que concernant les derniers spectacles que j'ai vus, que ce soit Macbeth, que ce soit Carmen, que ce soit même certains Requiem à la Lohengrin, certains m'ont dit que j'avais la dent dure, mais le problème, c'est que je ne sais pas mentir. Quand je ressens quelque chose, ben, je le dis. Alors, comment faire avec cette clémence ? Finalement, j'ai décidé d'attraper un bout de ficelle. Et il ne vous a pas échappé que dans cette clémence, il y avait un certain nombre de prises de rôle. Aborder un rôle, surtout n'importe quel rôle de la clémence de Titus, et globalement n'importe quel rôle d'opéra, et plus particulièrement ceux de Mozart, c'est toujours un challenge extraordinaire pour les chanteurs. Et nous le savons, nous tous, autour de cette table, de nombreux chanteurs font leur début à Toulouse. Cette fois-ci, à nouveau, nous avions des prises de rôle, et des prises de rôle à risque d'une jeune soprano israélienne, Rachel Frankel, abordée pour la première fois le rôle Sesto, qui peut-être est le plus important de la clémence de Titus. Julie Boulian également, dans Agneau, etc. Donc, pourquoi viennent-ils à Toulouse aborder des rôles aussi importants ? Je parle de Sesto plus particulièrement. Mais parce que tout simplement, à Toulouse, ils trouvent un accueil d'abord artistique. Ils trouvent des équipes techniques, ils trouvent le temps de répéter ces rôles-là.
Bref, de très bonnes conditions de travail.
C'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, pour discuter avec de nombreux chanteurs, ils ne rêvent que de prendre leur rôle à Toulouse. Et il y a des raisons profondes. Et cela dure depuis plus de 30 ans, depuis l'époque Nicolas Joël. Il faut le citer, ça continue avec Frédéric Chambert. Ça continue aujourd'hui avec Christophe Christy. Donc ça, cela situe tout de même la qualité et le niveau du Théâtre du Capitole. Alors ensuite, cette Clémence de Titus, bon, vous le savez, c'est une reprise d'une coproduction avec Marseille, avec Aix-en-Provence, qui commence à avoir quelques années à présent. David Mavicar, évidemment, ne s'est pas déplacé pour reprendre cette production. Il a confié ça à une personne, j'imagine, en qui il a effectivement toute confiance. Le fait est que ce que l'on voit quand même est sur la scène ressemble davantage à un réglage d'entrée et de sortie qu'autre chose. Il ne se passe pas d'émotion sur cette scène, qui plus est, c'est des corps coulissants qui veulent tout dire et rien dire en même temps. Cette espèce d'escalier, on le comprend, qui est censé montrer l'ascension vers le pouvoir, etc. Et qui est un casse-pipe, passez-moi l'impression, mortel pour les chanteurs, parce que non seulement ils risquent de tomber, mais deuxièmement, ils y perdent leur souffle sur cet escalier. Un escalier à 45 degrés quand même. Bon, on sent bien ce qu'il y a derrière, hein, mais quand on est metteur en scène d'opéra, il faut aussi s'occuper des chanteurs.
Il faut intégrer d'autres données.
Oui, en particulier la problématique physique des chanteurs. Hein, voilà. Donc, cette production, vraiment, je ne la retiendrai pas comme l'un des points forts de ce spectacle. Alors ensuite, il y a de belles choses, des prises de rôle. Je parlais de Rachel Frankel, qui est en troupe à Vienne aujourd'hui. Et alors, le soir de la première, alors entendons-nous bien, je sais bien, il ne faut jamais aller aux premières, mais... Et donc, voilà, Rachel Frankel était un peu, surtout dans la première partie, un peu tétanisée par l'émotion, le trac aussi. Il n'empêche qu'elle construit un personnage. C'est un travesti, elle le porte admirablement bien. Elle a une voix très homogène. Maintenant, c'est un mezzo clair. Lorsqu'elle chante à Vienne, ce sont souvent des Rossini qu'elle chante. Et voilà, on se trouve devant cette ambiguïté au premier acte où elle a un duo avec Vitellia. Et Vitellia a une voix plus sombre qu'elle. Donc, vocalement, si on ferme les yeux, on ne sait plus qui chante si on ne connaît pas parfaitement la partition. Bon, cela dit, c'est une jeune cantatrice qui a un potentiel énorme, à mon avis, et en devenir. Anne-Marie, qu'est-ce que tu en penses ?
Tout à fait d'accord. Dimanche après-midi, je crois que son sesto était à la fois très bien interprété au plan du personnage, mais aussi je crois que la voix était très bien maîtrisée. C'est vrai que c'est un mezzo assez clair, pas un mezzo qui a des graves, mais je pense que c'est quelqu'un à suivre. Et d'ailleurs, ces prises de rôle, là, ces jeunes interprètes sont, je crois, les points forts de cette distribution.
Oui, absolument.
Ainsi
oui.
Que Julie Bouliane.
Julie Bouliane, oui.
Québécoise.
Sabina Puertolas aussi.
Et Sabina Puertolas aussi. Toutes ces jeunes femmes-là sont ouais. Vraiment tout à fait à la mesure de ces rôles et dans cet ouvrage.
Et d'ailleurs, concernant le sesto, Rachel Frankel, très clairement, au rideau final, elle a eu un véritable triomphe. Alors ensuite, on ne peut pas parler que d'elle, évidemment, mais c'est la Clémence de Titus, c'est Titus aussi. Hein. Et là, j'avoue que ce ténor britannique, Jeremy Ovenden, qui est pourtant un spécialiste du rôle.
Oui, tout à fait, des rôles mozartiens en général.
Des rôles mozartiens. Et là, franchement, sur scène, il ne fait rien passer, la voix est relativement neutre. Voilà, la virtuosité, le vendredi soir a été un peu laborieuse.
Dimanche, je pense que sur le plan purement vocal, la voix était souple, mais le personnage, faute de direction d'acteur, le personnage n'exprime pas grand-chose, mais je crois que la voix était bien menée.
Le dimanche, c'était mieux,
c'est ce que tu nous dis. Je pense que c'était bien le dimanche.
D'accord. Ensuite, il y a quand même un rôle absolument tellurique, c'est celui de Vitellia. Hein, c'est un rôle infernal, c'est un peu Electra di Domine, en fait. Et là, c'était Inga Kanna qui est venue remplacer quelqu'un au dernier moment, hein, elle le savait parfaitement. Et là, bon, on se trouve devant une problématique de distribution, puisqu'en fait, on sait très bien que ce rôle-là réclame un médium énorme, sauf que la créatrice du rôle avait des aigus. Et en particulier, pour terminer, ce qu'on appelle le trio, mais qui est un faux trio, à la fin du premier acte, et où vous se balade des si bémols, si naturels, et un contre-ré. Alors évidemment, un rôle, ce n'est pas une note, d'accord, sauf que c'est écrit, et quand on essaie de les donner, qu'on n'y arrive pas trop...
On pousse,
on hurle. Ça s'entend, voilà, ouais. Ça et c'est dommage, parce que...
Surtout à la première, il faut dire. Après, oui. Ça, puis en répétition, et après, c'est quand même, ça s'est estompé. Mais c'est vrai qu'à la première, c'était un peu... un petit peu trop.
Alors ajoutait beaucoup, vous voulez dire.
Oui, oui, voilà. Enfin, les aigus oui. Étaient. Enfin, ces aigus-là, du numéro 10, c'était un peu difficile. Mais...
Donc, bon, on a un peu regretté. Alors, d'autant plus regretté qu'elle aussi, elle fait un personnage. On croit ce qu'elle nous dit. Elle a un médium quand même qui roule bien. Elle donne de la couleur, elle fait des nuances, elle fait etc. Voilà, et on regrette beaucoup que ces malheureuses notes soient un peu dures à entendre. Julie Bouliane, dans le rôle d'Agneau, était. Parfaite. Je vous rappelle, c'était elle qui faisait oui. Béatrice.
Béatrice
et
Bénédicte.
Voilà, dans Béatrice et Bénédicte, il y a très peu de temps, et elle était très bien, Anne-Marie.
Parfaitement, oui. Ouais. On a un souvenir d'elle attaché à ce personnage qui est tout à fait positif.
Alors, elle aussi apporte bien le travesti. Hein,
oui. Par contre, je trouve que Inga Kalna, en Vitellia, on l'avait accoutré, ce costume ne lui va pas du tout. Et que le personnage de Vitellia, mais ça c'était le costume de la production.
Oui, oui.
Le personnage de Vitellia, on attend quelque chose visuellement, mais ce n'est pas son physique, sa façon d'être coiffé, oui. Que le personnage et la direction d'acteur ne font pas croire tellement à ces personnages.
Non, mais on revient bien sur le problème de la production. Là.
Oui.
Voilà, et puis il y avait quelque chose d'intéressant qui m'a un peu surpris, moi, sur le papier, c'est que le rôle de Publio, qui est un rôle énorme, hein,
oui.
Mais en fait, c'est écrit pour une basse, et puis vraiment, c'est une basse. Alors, l'ambitus requis est vraiment un ambitus très court, donc en fait, un baryton qui sait un peu se débrouiller sur ses notes graves, il y arrive, voilà. Et donc c'était Aimery Lefebvre, qui est un baryton, mais incontestablement. Et puis bon, finalement, il s'en est pas trop mal débrouillé de ce rôle de basse. Il a un peu noirci son médium, mais bon, c'est passé, voilà. Quant à la direction d'Attilio Cremonesi, moi je n'ai pas été emballé. Alors d'abord, on le sait, il a l'habitude de faire surélever l'orchestre. Ok, pourquoi pas. Mais il faut tenir compte d'une chose, c'est que lorsqu'on surélève l'orchestre, on modifie l'acoustique du Capitole, très clairement. Et donc, il faut diriger en conséquence son orchestre. Voilà. Et donc, moi, je n'ai pas l'impression, et puis c'était sec, c'était carré, il n'y avait pas d'émotion dans ce qui faisait cet homme. Alors, cela dit, l'orchestre n'y est pour rien. Ce n'est pas parce qu'il y a, il y a Serge à côté de moi.
Il y a membre de l'orchestre, on va lui poser la question.
L'orchestre n'est pour rien, mais loin de là, même la petite harmonie a été d'une virtuosité absolument extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et Serge, je ne serais pas là, je le dirais. Mais voilà, mais c'est l'ensemble. Là, Anne-Marie, qu'est-ce que tu en penses ?
Entièrement d'accord. Je pense que c'est dû à la position de l'orchestre, parce que l'orchestre était égal à lui-même, avec d'excellents solos, c'est vrai, surtout du côté des bois. Et donc, je crois que c'est la sonorité était modifiée à cause de la position de l'orchestre.
Alors, pourtant, Attilio Cremonesi, ce n'est pas la première fois qu'il venait au Théâtre du Capitole. Il connaît bien la salle, il connaît bien l'orchestre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Serge?
C'est vrai que depuis Così fan tutte et après, à travers les grandes Aponte et puis le Turc en Italie récemment, il a cherché à faire ce travail de rehausser un peu la fosse, avoir un orchestre d'un effectif très petit et détaillé extrêmement, enfin, phrasé très analytique, avec peu de vibrato, etc. C'est une esthétique, l'esthétique qui défend. Nous, le fait d'être un peu plus près de la scène, ça nous met quand même, pour ce répertoire en tout cas, dans un meilleur contact avec les chanteurs. Je ne pense pas qu'on a écrasé les chanteurs. Peut-être après, le résultat général dans la salle était peut-être suivant les places aussi, mais notre position n'est pas désagréable. Après, effectivement, c'est un choix de ce chef d'orchestre. Actuellement, on est à une époque où on peut interpréter Mozart de façon très différente. Bon, un petit mot peut-être aussi par rapport à l'œuvre et à ce que vous disiez, Robert, sur les... peut-être une certaine raideur, une certaine froideur des postures en scène ou de l'absence ou de la direction d'acteur ou insuffisante. C'est que c'est une œuvre très particulière qui d'ailleurs a mis beaucoup de temps à s'imposer. Enfin, oui. C'est juste depuis 15-20 ans qu'on la représente régulièrement. Bon, c'est une œuvre évidemment seria, on dit globalement une des derniers opéras seria de Mozart qui après va déboucher sur les premiers opéras romantiques. Mais elle a un sujet quand même qui est aussi, je dirais presque moral. Moi, j'ai tendance à penser que si on la compare aux grands opéras bouffa dans lesquels Mozart a été tellement génialissime, chaque numéro est un feu d'artifice, enfin, on va dire, à lui tout seul. Là, c'est un petit peu différent. Bon, on sait qu'il écrivait en même temps La Flûte Enchantée, qui est d'un genre complètement différent. Là, c'est une commande pour un sacre, etc. Peut-être que, je ne sais pas pour faire l'avocat du diable, mais peut-être qu'il y a un parti pris comme ça, d'une austérité relative en tout cas, qui reste dans des valeurs un petit peu morales, raciniennes. En tout cas, nous on ressent un petit peu ça, effectivement. Après, on peut aussi aimer, ne pas aimer.
On va en rester là pour la Clémente Titus. Peut-être en reparlerons-nous encore un peu la semaine prochaine, puisqu'il va y avoir une représentation, la dernière entre-temps. Dernière représentation, donc, ce dimanche 1er juillet à 15h au Théâtre du Capitole. Nous allons maintenant revenir sur le concert qui a clôturé la saison de l'Orchestre National du Capitole à la Halle au Grain. C'était vendredi dernier. Et l'ensemble symphonique toulousain y était dirigé par le chef franco-italien Enrique Mazzola. Il a également accompagné Edgar Moreau pour le concerto pour violoncelle d'Edouard Lalot. Outre cette pièce française, il y avait au programme Preludo Sinfonico de Puccini et Fontaine romaine de Respighi, deux œuvres de compositeurs italiens, donc d'où sans doute la présence d'Enrique Mazzola. Et d'ailleurs, le sous-titre de ce concert était Vacances romaines, un titre et un programme de circonstances pour terminer la saison alors que l'été commence. Comment avez-vous trouvé ce programme, l'orchestre, son chef et Edgar Moreau vendredi dernier, Anne-Marie?
Ben, je crois que c'était une belle fin de saison, une sorte de feu d'artifice, puisque les œuvres d'Otto Rino Respighi qui ont terminé le concert ont été longuement acclamées. Ces deux œuvres symphoniques, les Fontaines de Rome et les Pins de Rome, offrent l'occasion à un orchestre comme celui du Capitole de briller dans tous ses pupitres. Ce sont des œuvres essentiellement virtuoses qui permettent à un large éventail d'instruments de s'exprimer. Et le pari était réussi et Enrique Mazzola a bien conduit ces deux deux œuvres que l'on entend rarement ainsi rapprochées au même programme et qui, je crois, ce soir-là, on visait juste puisque le public était ravi à la sortie, découvrait un petit peu cet univers, avait apprécié tout l'orchestre qui là était vraiment à son zénith comme il l'est, il faut le reconnaître, très souvent. Et c'était l'occasion de terminer la saison comme un feu d'artifice musical et symphonique. Et ces œuvres qui datent donc du XXe siècle, toutes les deux, je crois, sont des œuvres qui sont inspirées parce que Respighi était quelqu'un qui avait été assez influencé par Rimsky-Korsakov, qui avait eu un désir d'exploiter toutes les ressources de l'orchestre, l'opulence orchestrale, et il a tout à fait réussi. En même temps, c'est évocateur. Quant à Edgar Moreau, il a fait entendre sa sonorité très chaude dans un concerto de Lalo, qui n'est peut-être pas un des concertos pour violoncelle les plus exceptionnels au plan musical, mais qui est une belle œuvre. Et c'était tout à fait ce qui lui convenait dans ce répertoire. Il n'a que 24 ans et il est en train de réaliser tous les espoirs qui avaient été mis en lui à ses tout débuts, puisqu'on l'a entendu très jeune à la Lograin. C'était, je crois, avec Valérie Gergiev qui l'a présenté au public toulousain. Il avait, je crois, 17 ans. En fait, il était très jeune, donc depuis, il fait une belle carrière et c'était aussi un plaisir de l'entendre dans cet autre répertoire.
Catherine Daroubet, vous avez assisté à ce concert et vous connaissez bien Edgar Moreau parce que vous l'avez programmé déjà plusieurs reprises aux grands interprètes. Encore cette saison avec David Cadouche à Saint-Pierre-des-Cuisines, un très très beau concert. Comment vous l'avez trouvé cette fois-ci avec notre orchestre toulousain?
Moi, je trouve que c'est un violoncelliste exceptionnel. On en discutait après parce que c'est vrai que ce concerto est peu joué, peu donné. Bon, on comprend pourquoi, mais c'est vrai que c'est intéressant justement d'aller sur des répertoires peu connus. D'ailleurs, il s'est régalé. Enfin, il a pris beaucoup de plaisir. Il me dit, on me demande toujours les mêmes concertos. Là, vraiment, c'était un réel bonheur pour lui de retrouver l'orchestre avec cette partition. C'est quelqu'un qui est très curieux, avide de tout, de musique, de chant. Il est dans toute l'exubérance, je dirais, de sa jeunesse, avec une grande curiosité. C'est un artiste vraiment qui a de l'audace, mais qui fait tout très sérieusement, avec beaucoup de respect. Enfin, vraiment, c'est un musicien que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup.
Le CD qu'il a fait avec David Cadouche montre la curiosité, oui, d'ailleurs, de ces deux garçons. Hein. On a pu voir ça à Saint-Pierre-des-Cuisines cette saison. Serge Tchaïkovski, un mot sur Respighi, ce compositeur que, personnellement, moi, j'apprécie beaucoup. Alors, je voulais votre avis.
Ces deux œuvres sont emblématiques. Il manque la troisième du triptyque, donc
trilogie,
les fêtes romaines. Donc, c'est un hommage à la ville de Rome, mais on entend quand même beaucoup, effectivement, Anne-Marie parler de Rimsky-Korsakov, qui a été le professeur de Respighi. Compositeurs comme Richard Strauss, et aussi
Debussy,
Debussy, voilà, c'est ce que j'allais dire, de la musique française, absolument. Et en fait, on est finalement pas tant que ça, à part évidemment les thèmes, certains thèmes de chansons notamment, dans de la musique italienne, a priori, surtout dans ces œuvres-là. Après, Respighi est un personnage qui a pu poser problème aux historiens parce que après il s'est beaucoup rapproché du pouvoir de Mussolini. Mais ces deux œuvres-là sont extrêmement intéressantes pour les musiciens de l'orchestre, pour l'orchestre, et elles sont très difficiles. Je pense que ce que j'ai pu en entendre à la générale, c'était vraiment un très beau travail, très beau résultat. Et je suis sûr que le concert a été un beau concert. C'est vraiment ça demande beaucoup de précision. Et c'est un compositeur qui a aussi écrit de la musique de chambre, qui s'est beaucoup intéressé après ça. Dans les années 20, plutôt dans sa période plus néoclassique ou néo-grégorienne. Enfin, il s'est vraiment intéressé à la musique ancienne, plus ancienne. Et il a fait aussi, avec les oiseaux, un ensemble d'orchestration de pièces baroques. Voilà, donc un compositeur curieux, très ouvert sur l'histoire de la musique, dans deux œuvres très emblématiques.
Oui, et à découvrir absolument. Pour ceux qui n'ont pas assisté à ce concert et qui ne connaissent pas les fontaines romaines d'Ottorino Respighi, voici le début. Une version du Berliner Philharmoniker dirigée par Herbert von Karajan.
Thank you.
Voilà, quand je disais qu'il y avait une influence debussiste, Debussy, contemporain capital pour les compositeurs de cette époque, Fontaine romaine, le poème symphonique d'Ottorino Respighi, interprété par le Berliner Philharmoniker sous la direction d'Herbert von Karajan. C'était une des œuvres au programme du dernier concert de la saison de l'Orchestre National du Capitole à la Lograin vendredi dernier. Et quelques jours après, au Théâtre du Capitole, c'était au tour du chœur du Capitole de donner son dernier concert de la saison. Il a eu lieu mercredi et Anne-Marie et Robert y ont assisté. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée à l'écoute de ce programme intitulé « Missa Tango, grand chœur d'opéra » ?
Moi, j'ai passé une soirée formidable. Mais Anne-Marie, c'est vrai.
Aussi, oui, hein? Tout à fait. Non, ouais, c'était très agréable en plus parce qu'il y avait du chœur qui était célèbre. On a découvert cette Missa Tango
de Palmieri.
Puis les autres chœurs qui étaient célèbres pour la plupart. C'était une très belle soirée.
Oui, tu as raison de dire pour la plupart quand même. Hein, parce qu'alors, effectivement, personnellement, la Missa Tango, je ne la connaissais pas. Parce qu'en termes de messe latino-américaine, moi, je suis vacciné à la Messa Criolla.
Criolla, bien sûr.
Et ça montre que je ne connais pas grand-chose, d'ailleurs, puisque cette messe date de 1996, quand même.
Mais bon, je la connaissais pas. Et tout ce qui est plus contemporain, alors, il est non 65.
Contrairement à la Missa Criolla, qui est vraiment très ancrée dans tout ce qui est rythme andin, les cuecas, les chacareras, etc., là, on se trouve devant un doux mélange entre de la musique classique, mais vraiment très classique, et puis il y a du tango. Alors effectivement, sur le kyrie, ben, vous pouvez danser le tango.
Oui, on avait écouté un extrait.
Voilà, très exactement.
Numéro,
alors on n'a pas forcément envie, mais enfin, on peut le faire. La musique est là. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Et puis alors, ce qui m'a pas surpris, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est quand même une musique très typée, en termes de rythme, en termes d'ambiance, et voir Alfonso Cayani, qui, si je me trompe, est plutôt italien, se fondre dans cette musique argentine comme ça, mais vraiment avec un bonheur absolument incroyable. Donc c'était l'orchestre de chambre de Toulouse, avec un bandéoniste qui s'appelle Davide Vendramin, et qui a une petite partie solo. Et c'est assez étonnant d'entendre ça, vraiment. Et alors, il y a également une partie chantée. Alors, je ne sais pas, parce que je crois qu'à l'origine, il y a 4 solistes hein, dans la version originale. Et là, il y avait une mezzo-soprano, Eleonore Pancrasi, qui a chanté 3 extraits. Bon, mais vraiment, pour tout le monde, c'était une découverte follement applaudie. Et alors, le programme était parfaitement établi, parce que nous quitter de cette ambiance bon, argentine, hispanique, on va dire, voilà, pour passer de suite à de l'opéra italien, non. Alfonso Cayani n'a pas voulu le faire. Donc, on est passé, après cette Missa Tango, à Doña Francisquita, une sarsuela bien connue à Toulouse, hein, avec le chœur des romantiques, qui est un chœur vraiment magnifique, très beau, bien sûr. Hein. Et puis ensuite, non, on n'est toujours pas passé à la musique italienne, puisqu'on a eu la banera de la Carmen de Bizet et le chœur des enfants. Et il y avait 40 maîtrisiens sur scène qui ont été absolument superbes. Anne-Marie.
Oui, tout à fait. Puis les enfants, ils étaient ravis d'être là. Ils arrivaient même avec le fameux la marche des enfants dans Carmen. Ils étaient tout à fait à l'aise. Puis le public était ravi de retrouver Carmen et la Banera. Eleonore Pancrasi, c'est quelqu'un du chœur du Capitole ou
non.
C'est une soliste?
Non,
elle chante très très bien.
C'est une grande soliste. C'est une vraie soliste qui vient d'être récompensée d'un prix. Et nous l'avons l'année prochaine.
Voilà, les programmes.
Dans Lucrèce Borgia, elle chante Mafia Orsini. Mais alors, ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, dans son interprétation, je ne pense pas qu'elle ait ce rôle à son répertoire, Anne-Marie.
Carmen?
Oui.
Si, ça peut être une elle Carmen soprano.
Non, mais est-ce qu'elle l'a?
J'ai trouvé qu'elle a très bien interprété la Banera, voilà. Qu'elle est donc capable d'interpréter ce répertoire, de chanter, mais je ne sais pas si elle est Carmen en scène.
Alors, je ne crois pas. Et je ne sais pas si, à aujourd'hui, on va dire, entre guillemets, elle a le coffre pour Carmen. Je n'en suis pas persuadé. Voilà. Alors, elle nous a fait cette habanera, mais vraiment, c'était d'une musicalité, d'une sensibilité. Et franchement, je ne veux pas la rapporter à celle qui nous a interprété au Capitole, avec 3 fois plus de voix, mais avec 3 fois plus de défauts aussi. Et là, on a eu quelque chose de très beau musicalement, Anne-Marie.
Oui, mais tout à fait, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'au-delà de la voix, Carmen, je le pense, permet aussi un soprano avec du registre assez assuré, mais que là, c'était très musical et très, très bien chanté. Donc, elle pourrait peut-être chanter Carmen, oui.
Sauf que là, ce n'était que la banera.
Et là, tel qu'on l'a entendu hier au soir, je la vois mal au dernier acte. Quoi. Je pense qu'il y aurait quelques difficultés. Et ensuite, donc, nous sommes passés à l'ADN d'Alfonso Cajani, qui est dans l'opéra italien. Et plutôt que de prendre des airs hyper connus, pardon, des morceaux...
Des chœurs.
De chœurs hyper connus, non. Le chœur qui précède l'arrivée de Norma, au premier acte, n'est pas forcément très connu, juste avant le Castadive. Hein. Et alors, c'était magnifique, vraiment magnifique. Ensuite, on est passé au Patria Oppressa. Bon, ça, on se doute pourquoi, c'est parce que ça vient d'être donné au Capitole.
Et il était très beau, très beau aussi.
Très beau. Et ensuite, quelque chose qui est peut-être un clignotant orange pour les futures saisons, je ne sais pas. L'Ave Signor, qui est dans le prologue de Méphistophèle et de Boïto. Donc, j'arrive pas à croire qu'il est arrivé comme ça, c'était au hasard. Alors, ce que je voudrais ajouter, ça concerne plus particulièrement Alfonso Cajani. Alors, l'orchestre de chambre, il a fait un tapis orchestral qui était parfait pour ce genre de manifestation. C'est très bien. Mais ensuite, il y a la direction d'orchestre. Et là, franchement, je reviens à Macbeth, là. À Macbeth, on vient de l'entendre, dirigé par un autre chef. Et ce chœur ne m'avait pas du tout ému. Et pourtant, Dieu sait que dans ce chœur, il y a de l'émotion. C'est un chœur d'opprimé, c'est un chœur de révolté. Et là, tout d'un coup, Alfonso Cajani nous a fait ressentir quelque chose. De même que tout le côté céleste, magique du prologue de Méphistophèle et de Boïto, puisque là, on se trouve là devant des chœurs célestes. Et là, le chœur du Capitole plus l'ensemble de la maîtrise nous ont fait littéralement décoller, Anne-Marie.
Oui, dans tous les répertoires d'ailleurs qui étaient à l'affiche ce soir-là, c'était, je crois, le témoignage de la grande souplesse de ce chœur, du haut niveau de la maîtrise, et aussi de Alfonso Cajani, qui peut diriger des œuvres comme ça, diriger un orchestre, qui était pourtant un orchestre fait de gens très divers, parce qu'il y avait un petit noyau de l'orchestre de chambre, beaucoup de supplémentaires, il y avait l'harmonie qui était avec de gens très jeunes, d'après ce que j'ai pu voir.
Donc
c'était un orchestre qui n'était pas un orchestre constitué, et ils s'en sont pas mal sortis du tout.
Et donc, il y a eu un tel succès qu'à force d'être rappelé, eh bien, ils nous ont donné un bis. Alors, bon, dans le bis, tout le monde l'attendait, Nabucco, et tout le monde était ravi d'avoir le cœur des esclaves, bien évidemment. Et puis, devant le succès grandissant, eh bien, c'est l'honorable Pancrazi qui est revenu pour nous refaire la Habanera sous un déluge d'applaudissements. Donc, c'est vraiment une fin de saison de concert éblouissante.
Et un public ravi.
Et conquis.
Et conquis pour cette saison, c'est terminé. C'est terminé aussi pour cette première partie d'émission par la même occasion. Nous vous donnons rendez-vous dans une minute après une petite pause. Restez bien à notre écoute sur Radio Présence. À tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Robert Pénavert, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, Serge Krichewski, oboïste de l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre en Harmonie, membre fondateur des Clés de Saint-Pierre, et avec notre invitée d'honneur, Catherine Dargoubet, fondatrice et directrice des Grands Interprètes.
Mélomanie. L'agenda.
Nous allons donc largement dédier cette seconde partie d'émission à la future saison des Grands Interprètes, dont le millésime 2018-2019 ressemble fort à un très grand cru, comme je l'annonçais au début de ce numéro. Nos auditeurs ont vite comprendre pourquoi lorsque nous allons parler du détail de la programmation avec vous, Catherine Dargoubet. Mais avant ça, je meurs d'envie de vous poser une question que j'ai déjà posée à ceux qui suivent vos saisons depuis les tout débuts pour certains d'entre eux, donc depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'il s'agit là de la programmation la plus prestigieuse que vous ayez jamais offerte, proposée au public toulousain ?
Alors, je pense que chaque saison est plus exceptionnelle l'une que l'autre.
Vous n'allez pas me dire le contraire.
Mais quand on a eu la chance d'accueillir l'Orchestre Philharmonique de Vienne,
des grands chefs d'orchestre comme Nicolas Sarnoncourt, Pierre Boulez, Carlo Maria Giolini, Riccardo Muti,
Valérie Gergiev,
des grands solistes, des grands chanteurs. Bon, j'avoue que chaque saison, on y met tout notre cœur, toute notre passion et pour réaliser une édition qui nous fait rêver déjà au fil des pages. Ensuite, il y a la magie du concert et on attend évidemment cette saison avec impatience.
Oui, parce que lorsqu'on regarde les noms des musiciens orchestres que vous avez invités, on a un peu le vertige. Il y a vraiment la fine fleur de la scène internationale. Si je ne prends rien que les pianistes, par exemple. Martha Argerich, Maria João Pires, Murray Peraya, Nelson Frère, les sœurs Bognati-Juilly, Bertrand Chamaillou.
Emmanuel Axe.
Emmanuel Axe, oui, effectivement, qui viendra avec l'orchestre du Festival de Budapest. Bon,
c'est une année...
quand même exceptionnel, il me semble.
C'est une année, c'est vrai que c'est une année piano. Mais pas que, puisque cette année, en fait, elle est plutôt, je dirais, avec un fil rouge, une connotation franco-russe. 2019, c'est le 150e anniversaire de la mort de Berlioz. Il était difficile de passer outre. On a invité pour la première fois Les Siècles à Toulouse avec François-Xavier Roth dans un programme qui sera tout dédié à...
entièrement Berlioz.
Voilà, Berlioz, avec l'ouverture des Francs Juges, cet opéra qui n'a jamais vu le jour, mais qui a servi à nourrir d'autres œuvres comme la Symphonie Fantastique, qui joueront après, et puis ensuite Marie Lenormand chantera Les Nuits d'été. Donc l'Orchestre Philharmonique de Radio France aussi, avec un programme de musique française. Voilà, il y aura pour la plus grande partie de la saison un regard qui est tourné vers la relation artistique entre ces deux pays. Berlioz avait dédié la Symphonie Fantastique à Nicolas Ier de Russie. Tchaïkovski faisait chanter ce magnifique air de la comtesse en français. Enfin, je pense que les liens artistiques sont très proches.
Et ils demeurent,
bien sûr. Donc, on tenait à les mettre en valeur et à les exalter. Cette année, bon, le point d'orgue, bien sûr, il n'est pas passé inaperçu. Ce sera la résidence du Bolchoï avec Tougan Sokiev, avec un concert du chœur dans les liturgies russes magnifiques qui nous font vibrer, mais aussi deux versions concerts. Une de Tchaïkovski, bien sûr, avec Pique Dame. Cet opéra magnifique.
Merveilleux Dame de Pique.
Magnifique. Et un opéra qui est plus rarement donné. On parlait de Rimsky-Korsakov tout à l'heure. On a peut-être plus l'occasion d'écouter Ivan le Terrible dans la version de Prokofiev que celle de Rimsky. Donc ce sera l'occasion de partager cela avec le public.
Alors, on ne va pas pouvoir balayer toute la programmation dans le détail, mais je me suis permis de la réunir en trois familles principales. Alors, c'est vraiment très subjectif. À commencer par celle des grands solistes internationaux, où l'on trouve essentiellement des pianistes, ceux que j'ai cités il y a quelques instants. Parmi eux, est-ce qu'il y en a un ou une que vous êtes particulièrement heureuse d'avoir pu programmer la saison prochaine ?
Ah non, ça je ne peux pas répondre à cette question parce que tous les pianistes invités sont vraiment des artistes magnifiques pour des raisons totalement différentes. Je pense que justement ils offrent une vision de l'instrument piano assez extraordinaire. Ils ont chacun leur personnalité. Murray Peraya, c'est plutôt un jeu épuré. Il a une façon d'envisager les œuvres. Ses Bach, ses Mozart sont, on parlait de Chopin tout à l'heure. Exceptionnels, sont très épurés, très, très purs. Piresh vient à jouer avec une jeune pianiste arménienne, Lilith Grigorian, qui fait partie de son projet pédagogique Partitura. Et elles donneront des sonates de Mozart à quatre mains. Piresh, elle a commencé sa carrière avec Mozart. C'est son jardin. Il y a une affinité, une connivence extraordinaire avec Mozart. Martha Argerich, alors c'est toute la fougue, la vélocité, l'alacrité dans son rapport avec l'instrument. Elle viendra aussi avec une jeune pianiste que l'on avait déjà accueillie au Jacobin il y a quelques années, c'est Lilia Zilberstein. Et enfin, Nelson Frère, lui, alors je dirais, il a un regard d'enfant sur tout le répertoire pianistique. D'ailleurs, ce n'est pas un programme thématique qu'il nous offre. Bon, il balaye un petit peu son regard sur ses œuvres. Il nous offre un programme avec des œuvres qu'il aime, qu'il affectionne particulièrement. Ensuite, il y aura Emmanuel Axe qui jouera un concerto de Mozart, le 17e, qui est magnifique. Il y aura d'autres pianistes, il y aura Tomenko, qui est un...
Alors, on va en parler tout à l'heure. Si vous permettez juste de le dire, vous avez cité déjà deux concerts à deux pianos, donc Martha Argerich et Lilith Grigorian, Lilia Zilberstein et Maria João Pires et Lilith Grigorian. Il y a aussi les sœurs Bognati-Juilly,
Oui.
Qui joueront avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Donc il y a trois concerts où il y a des doubles pianos, si je puis dire. C'est un hasard, ça, ou c'était une volonté?
C'est complètement un hasard. C'est vrai que le programme de l'Orchestre Philharmonique, ce n'est pas nous qui le choisissons, puisqu'ils jouent le même programme la veille à Paris. C'est vrai que c'était un programme de musique française que je souhaitais. Donc on s'est positionné sur ces œuvres-là. Ce concert-là, c'est vrai que le concerto de Poulenc est jubilatoire. C'est une sorte de question-réponse, de ping-pong au piano. C'est follement enjoué.
Et puis il y a la valse de Ravel à deux pianos, ça va être quelque chose aussi.
Oui, j'espère, parce que c'est quand même une œuvre qui n'a pas du tout été écrite pour piano, qui est carrément injouable à deux pianos.
J'ai entendu à un piano, deux pianos, ça serait une première pour moi.
C'est bon.
Ça sera une des originalités de la saison. Il y en a d'autres, donc c'est ces concerts avec deux pianistes. Et il y a aussi, je crois qu'on en parle un petit peu, notre Toulousain, Bertrand Chamaillou, qui vient avec sa grande amie, la violoncelliste argentino-suisse Saul Gabetta. Alors, on les a déjà reçus à Toulouse.
Oui, on les a déjà invités dans la saison. C'est toujours eux aussi, je pense qu'ils ont appris à parler ensemble, musique. Ils ont une intuition, une connivence. J'adore Saul Gabetta et pour moi, c'est un réel plaisir de les inviter tous les deux. Je les écoutais il n'y a pas très longtemps. Là. Il y avait un concert, ils jouaient à Paris au Théâtre des Champs-Élysées.
Ils jouent beaucoup ensemble, très souvent.
Et c'est vrai que je me faisais la réflexion, même Bertrand ne joue pas de la même façon quand il joue avec Saul Gabetta.
Oui.
C'est très amusant. Je les adore tous les deux. Vraiment, pour moi, c'est un duo exceptionnel. C'est vraiment fantastique.
Alors, on parlait de Murray Perraia, alors pour moi, un des très, très grands pianistes des 50 dernières années. Et sa venue à Toulouse, c'est toujours un événement. Il rayonne dans beaucoup de répertoires différents. Vous les avez évoqués, Bach, Mozart et Chopin. Alors, je ne sais pas s'il jouera du Chopin lors de son concert du 28 janvier, parce que le programme n'est pas encore défini.
Non, il se laisse le temps de la réflexion pour justement nous proposer son programme.
Quoi que ce soit, je sais que ce sera formidable. Je vous propose de l'écouter dans une interprétation de la fameuse et merveilleuse ballade numéro 1, opus 23 de Frédéric Chopin. La ballade numéro 1, opus 23 de Chopin, interprétée par Murray Perraia, qui sera donc en concert lundi 28 janvier 2019 à 20h Alain Laugrin dans le cadre de la saison des grands interprètes. Autre famille programmée par vos soins, les orchestres comme chaque saison. De très beaux ensembles, déjà entendus aux grands interprètes pour la plupart, avec, pour commencer la saison, Il Pomodoro, dirigé aujourd'hui par Maxime Emelianichev, qui va donner Circé, l'opéra de Handel en version concert le 7 novembre. Alors Maxime Emelianichev, un jeune chef russe très doué, qu'on a l'air de beaucoup aimer à Toulouse, et qu'on est appelé à revoir souvent, j'ai l'impression.
Oui, pour moi, c'est un lutin de la musique. Il joue du cornet à bouquin, il joue du pianoforte, il a enregistré des sonates de Mozart, magnifiques. Voilà, il dirige, il est chef d'orchestre, avec un égal bonheur, ce qui est quand même assez rare. Je me souviens l'avoir discuté avec Richard Good, puisqu'il a dirigé l'orchestre du Capitole et Richard Good dans un concert en début de saison. Et vraiment, il y avait une onde connivence entre les deux. Et Richard Good était absolument émerveillé, ébloui du talent et de ce chef.
Et puis donc, l'œuvre qu'ils m'ont donnée, Circé, l'opéra de Handel, Circé, oui. Version concert. Ça aussi, c'est un événement, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué à entendre.
Ce n'est pas un opéra qui est
beaucoup donné.
On peut dire que c'est le plus mozartien des opéras de Handel. C'est Franco Fagioli qui endossera le rôle de Circé. Voilà, je pense que c'est une belle ouverture de saison dans un répertoire baroque que l'on affectionne beaucoup. Et cette année, ce sera le seul concert qui sera dédié à ce répertoire-là.
Donc, autres orchestres programmés, vous avez cité tout à l'heure le Philharmonique de Radio France.
Avec Nico Franck.
Avec Nico Franck à la direction et donc les sœurs Bugnetti-Juilly au piano. Le Bolchoï, on en a parlé, vous avez cité les œuvres qu'ils vont jouer. Les Siècles, donc François-Xavier Roth, c'est une première, Les Siècles,
oui,
hein, pour les grands interprètes.
Oui.
Je pense qu'il y a longtemps que vous vouliez sans doute les programmer.
Oui, c'est un orchestre et un chef surtout qui est très prolixe et que l'on avait déjà accueilli avec...
un autre orchestre.
Avec un autre orchestre. Il avait partagé le concert avec John Eliot Gardiner. Et on est ravis de les accueillir pour ce concert dédié à Berlioz.
Et puis, alors là, j'allais dire, un vieil habitué.
Oui,
le Budapest fidèle. Festival Orchestra, dirigé par le grand Ivan Fischer. Alors, je ne sais pas combien de fois ils sont venus, mais c'est...
Ils viennent très souvent.
On les a souvent. Hein. Ouais. Et personne ne s'en plaint d'ailleurs.
Non, mais c'est vrai que c'est un orchestre qui poursuit sa route musicale avec beaucoup de bonheur, qui est connu et reconnu au niveau européen. On est très heureux de les accueillir avec fidélité. On a embrassé un répertoire assez large avec eux. On a fait une route avec beaucoup de joie et de fidélité. Et cette année, ils ont invité Emmanuel Ax dans un programme. Mozart, Rossini, la 4e de Schubert. Ce sera un très beau programme.
Oui, il y a des ouvertures d'opéra Rossini, la Pivoleuse, oui. Et puis le générique de cette émission, l'italienne à Alger. Robert Pennavert voulait justement nous dire quelque chose.
Pose une question simplement, ça ne va pas vous étonner. Hein. J'ai devant moi la page des lauréats HSBC et Evan Hughes, qui est un baryton basse, et Elio Vida, qui est pianiste, dans un programme qui s'appelle L'Instinct Lyrique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Bon, d'abord... On a instauré un partenariat avec l'Académie. Ce n'est pas la première fois que nous invitons des lauréats. Et chaque année, avec Paul Brioté, nous choisissons quels seront les lauréats, le concert qui sera inscrit dans les grands interprètes. C'est vrai que gagner des prix ou être lauréat, c'est bien. Avoir des concerts, c'est mieux. Donc, après, son travail, justement, c'est de les faire rayonner en France et à l'étranger. Il y réussit très bien. Pour nous, on a répondu tout de suite présent et on a choisi ce concert-là. C'est un concert qui a toute une histoire et qui sera dévoilé, justement, le jour du concert, parce qu'il y a tout un scénario qu'ils vont nous raconter au travers de toutes les mélodies qu'ils ont choisies pour ce concert-là.
Je me doutais qu'il y avait quelque chose, donc il y a une histoire qui sera dévoilée à ce moment-là, oui.
Tout à fait.
Allez, on va écouter le Budapest Festival Orchestra dans une des œuvres qui est au programme de leur concert du 20 mai. Il s'agit de la symphonie numéro 4 de Franz Schubert, le premier mouvement, sous les directions bien sûr d'Ivan Fischer. Thank you. Le premier mouvement de la symphonie numéro 4 de Schubert, interprété par le Budapest Festival Orchestra, sous la direction d'Ivan Fischer. Vous pouvez les retrouver avec le pianiste Emmanuel Axe, lundi 20 mai 2019 à 20h à la Halle au Grain. Dernière famille d'artistes que je me suis permis de réunir, ceux que j'appelle les insolites, les inattendus, les singuliers. Alors j'avais mis dedans justement Elio Vida et Evan Hughes dont vous venez de parler. Et puis il y a les King Singers, Tomanko et Vasilena Serafimova, un duo piano, jazz, marimba, on va dire ça comme ça. Il y a le pianiste jazz Brad Meldo. Tous les ans, il y a des concerts un peu hors cadre comme ça. Ça fait partie de l'ADN, comme on dit aujourd'hui, des grands interprètes.
Oui, il est difficile de programmer certains concerts à la Lograin. Et puis, dans le calendrier de la saison, on a des périodes où on peut inscrire d'autres concerts et on ne s'en prive pas. Justement, on laisse la parole à des répertoires un peu particuliers, un peu insolites, découvrir des instruments.
Des mariages d'instruments.
Oui, absolument. Inattendus. Bon, c'est vrai que ça c'est pas une découverte, mais les deux ils sont extraordinaires, ils sont fantastiques.
On parle de Tomanko et Vasilena Serafimova.
C'est
franco-russe encore.
C'est extraordinaire, ouais. C'est une bouffée de bonne humeur, de joie de vivre, c'est extraordinaire, ils sont fabuleux. Bon, les King Singers, j'ai envie de dire les inoxydables King Singers, oui. Qui balaient le répertoire de la musique de la Renaissance aux Beatles. Ça aussi, c'est des moments jubilatoires. Voilà, et Elio Vida avec Evan Hughes. Brad Meldo, lui, c'est quand même une grande star du piano jazz. C'est un des plus classique parmi les pianistes de jazz. Il accompagne beaucoup les chanteurs. Il a beaucoup accompagné René Fleming. Il aime beaucoup travailler avec des musiciens classiques.
Il est venu au Capitole avec Anne-Sophie von Otter.
Voilà, avec Anne-Sophie von Otter. Oui, c'est vrai, oui.
Tout ça fait découvrir aussi au public d'autres univers.
Oui, tout à fait.
C'est un des intérêts aussi de programmer ces artistes, justement pour le plaisir de l'oreille de la découverte. Et comme vous venez de nous en parler, ça nous donne envie. Nous allons écouter le duo Tomanko-Vasilena Serafimova. Il s'agit d'un morceau intitulé « Eclipse ». Morceau interprété par le duo Tomanko-Vasilena Serafimova, avec qui vous avez rendez-vous à Saint-Pierre-des-Cuisines lundi 18 février à 20h. Une des curiosités de la saison 18-19 des grands interprètes qui n'en manquent pas. Je vais donner la parole pour les quelques instants qui nous restent à Serge Krichevski, parce que l'Enharmonie, l'orchestre que vous dirigez, est lui aussi en concert ce lundi 2 juillet à 18h30 à l'hôpital Purpan, avec un programme Mozart Haydn, deux compositeurs qui vous sont chers. En quelques mots rapides, présentez-nous ce concert, Serge.
Alors nous avons le grand plaisir de jouer avec notre collègue brillante Chola Ning, qui est violoniste à l'orchestre depuis plusieurs années, qui est une enfant prodige au violon, qui nous vient de Taïwan, avant d'avoir fait des études...
Quand vous dites à l'orchestre, c'est l'orchestre du Capitole.
Elle a fait des études en France, mais elle nous a rejoint rapidement. On va faire une pièce donc assez connue, le troisième concerto pour violon de Mozart avec elle, et une pièce beaucoup moins jouée, la symphonie 76 de Haydn. On aime beaucoup Haydn avec mon orchestre, pour pouvoir programmer un peu des choses qui sont vraiment... un peu différente, il y a un répertoire d'une très grande richesse à remettre un peu en valeur. Et le CHU et la personne de Christine Cuc, qui organise très très bien toute cette saison musicale, nous donne le plaisir de jouer régulièrement, donc dans le hall. Le concert a lieu à 18h30. Il profite aux malades, aux familles des malades, aux médecins, aux personnels soignants et également à tous ceux qui veulent venir écouter. Donc c'est pour nous une grande chance. On a un partenariat depuis 3 ans maintenant et on travaille régulièrement au CHU, dans toutes les salles, dans le hall. Voilà, on fait régulièrement des concerts pour piano aussi dans ce hall. Donc une pièce à découvrir, une pièce à redécouvrir avec l'Orchestre en Harmonie, lundi 2 à 18h30.
Merci beaucoup pour cette présentation, Serge. C'est la fin de ce numéro. Merci à vous trois, Anne-Marie, Robert et Serge, de m'avoir aidé à l'animer avec le talent et la passion qu'on vous connaît. Et merci à Catherine Dargoubet d'être venue nous rendre visite pour évoquer cette superbe saison 2018-2019 des grands interprètes qui n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places et vous abonner en vous connectant au site www.grandsinterprètes.com. Vous y trouverez également toute la programmation et le détail des concerts de la saison. N'oubliez pas non plus qu'il reste une représentation de la Clémence de Titus, l'opéra de Mozart, au Théâtre du Capitole. Elle a lieu ce dimanche 1er juillet à 15h et vous pouvez là aussi vous renseigner et réserver vos places sur le site www.theatreducapitole.fr. Et enfin, je rappelle le concert que donne l'Orchestre en Harmonie ce lundi 2 juillet à 18h30 dans le hall d'entrée du bâtiment des urgences de l'hôpital Purpan, sous la direction de Serge Krzyzewski et avec la violoniste Xu Yan Ying. Au programme, le concerto pour violon numéro 3 de Mozart et la symphonie numéro 76 de Joseph Haydn. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles et vous trouverez là aussi les renseignements nécessaires sur le site de l'orchestre www.orchestre.enharmonie.free.fr. Merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission qui est comme d'habitude disponible et réécoutable en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente semaine musicale.